Ben, le prix de l'essence, justement, c'est devenu non seulement prévisible, puis après ça, on va me dire que c'est pas du tout orchestré. Écoutez bien, là, ça fait plusieurs semaines qu'on constate qu'à chaque lundi soir, ça augmente. Et pas une petite hausse, là, c'est du 7, 8 puis du 9 sous le litre. Là, ce matin, à Montréal, c'est autour de 1,40 $. C'est pas partout, là. Mais progressivement, on sait que le principe étant de surélever le plancher, ce qui fait que quand on baisse un peu durant la semaine, on ne retombe jamais au niveau de la semaine précédente et le prix demeure élevé. Puis là, je pourrais vous donner tous les arguments que j'ai entendus puis multiplier les grandes entrevues là-dessus. Là. On va nous dire, entre autres, que c'est le changement de l'essence d'hiver à l'essence printanière puis que là, certaines capacités de raffinage ont été réduites, ce qui met une pression sur les prix. On peut sortir tous les arguments, mais vous allez m'expliquer une affaire. Pourquoi toujours le lundi? Avant, c'était le jeudi. Pas tout le temps. C'est assez standard. Là, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une hausse qui est programmée. Puis une hausse importante, je le répète. En plus de ça, quand je vous ai dit l'autre jour qu'il y avait des variations entre ce qu'on appelle l'essence super là, puis l'essence régulière, selon la hauteur du prix. Alors, moi, j'ai remarqué des différences. Des fois, tu as un écart de 12 sous. Des fois, tu as un écart de 15 sous. Des fois, tu as un écart de 16 sous. Les gens me disent, M. Arcan, ça varie d'une bannière à l'autre. Il n'y a pas toujours des différences. Mon collègue Marc a fait le même constat. Tout ça pour dire que quand on regarde le prix de l'essence, puis c'est un symbole, puis qu'on nous dit, savez-vous, là, tout ça traduit un marché libre et concurrentiel, vous permettrez quand même qu'on puisse en douter. Monique Néron est en studio avec nous pour nous parler d'abord d'une opération sauvetage qui est en cours.
Oui, qui est en cours présentement, entre autres le service incendie qui est impliqué, Ontario-Saint-Denis, c'est sur un chantier de construction présentement. Il y a un homme de 30 ans, un travailleur, donc qui serait pris dans un trou. Il pourrait avoir eu un malaise, là, selon les premières constatations. Il serait conscient, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, mais on n'a pas exactement la nature de ses blessures pour l'instant.
Et aussi, je vais enchaîner avec des sentences qui ont été rendues. Et des sentences, disons que pour le commun des mortels qui regarde ça, c'est assez léger, là, compte tenu de la gravité des crimes.
Et même pour des gens qui sont habitués, je vous dirais, ça peut faire sursauter. En août dernier, donc, José Milo gardait la petite fille de sa voisine dans un appartement d'Hochelaga-Maisonneuve. Elle a consommé du crack. Elle a laissé un rond ouvert. Le feu a pris. Elle a tenté de l'éteindre avec des vêtements. Elle a ensuite quitté les lieux avec son chien en abandonnant l'enfant dans l'appartement en flammes. Les policiers qui sont arrivés en premier sur les lieux, on le sait, ils étaient à proximité pour une autre intervention. Et là, les voisins leur crient qu'il y a un bébé à l'intérieur. 5 policiers ont été blessés. Ils sont entrés à l'intérieur au péril de leur vie pour sauver cet enfant qui va bien aujourd'hui. Malgré tout, c'est la bonne nouvelle. Et ça a été souligné, là, ça d'ailleurs, par les deux procureurs hier à la Défense, Maître Antonio Cabral, et à la Couronne, Roxane Laporte.
Je tiens à le dire, les policiers qui ont fait preuve d'un acte d'héroïsme incroyable, qui sont rentrés dans un immeuble en feu, dans une chambre en feu, dans un appartement en feu, pour aller chercher cet enfant-là alors qu'on ne voyait rien à l'intérieur. Et qui lui ont sauvé la vie.
Eux-mêmes ont été très incommodés par la fumée, ont été blessés pour certains. C'est clair que l'enfant qui était déjà couvert de suie, dont on a eu besoin d'aspirer les sécrétions au niveau du nez pour lui permettre de respirer, c'est clair que si ce n'était de l'intervention des policiers, cet enfant-là ne serait pas là aujourd'hui.
Hier, c'était le début du procès. Paul, tous les témoins étaient présents et finalement, madame a décidé de plaider coupable. Donc, on l'a condamnée sur le champ à 10 mois et demi de prison. Mais compte tenu de la détention préventive de 7 mois, son temps était fait. Donc, c'est effectivement une peine qui peut sembler clémente compte tenu de la gravité de la négligence. Mais les deux procureurs n'étaient pas tout à fait de cet avis.
C'est pas nécessairement clément. Madame Milo reconnaît ses torts, ne conteste rien. C'est repris en main depuis le début de sa détention. Elle n'a jamais eu l'intention de mettre le feu, que l'enfant soit blessé. Et cette journée-là, Madame Milo avouait candidement qu'elle a peut-être un peu trop consommé.
Alors, la femme qui a comparu aujourd'hui n'était pas du tout la même que celle lors de sa comparution initiale. Elle était beaucoup plus posée. On voyait qu'elle n'avait pas pris de drogue depuis son incarcération. Je pense que c'était flagrant. Elle a aussi décidé d'entrer en thérapie fermée pour les 6 prochains mois. Donc, madame sera remise en liberté aujourd'hui.
Et elle n'a plus le droit d'être responsable d'un enfant de moins de 16 ans. Et autre sentence qui a fait sursauter hier, c'est celle de Rick Maudy, 24 ans, qui a écopé d'un an de prison pour avoir heurté à mort le petit Dominique, son petit voisin de 2 ans à Saint-Constant. C'était en mai 2017. Et l'explication qu'il a fournie pour avoir fui les lieux, c'est qu'il devait se rendre à un match de hockey, qu'il savait qu'il avait heurté quelque chose avec sa voiture, mais s'est pas arrêté parce qu'il était trop pressé. Et après son match de hockey, il a essuyé les traces de l'impact impact sur sa voiture. Sa copine lui a dit qu'un enfant avait été heurté dans le quartier. Pourtant, ce n'est qu'un mois et demi plus tard que les policiers vont procéder à son arrestation. Donc,
alors, ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu au policier.
Il s'est pas rendu, exactement.
C'est un an de prison, ça?
Un an de prison.
Donc il va sortir au quoi, au tiers?
Tout au plus, là, oui. T'es découpable hier de délit de fuite causant la mort.
Une couple de mois dedans, puis c'est tout.
C'est tout. On peut penser à un 3-4 mois. Ce serait raisonnable, oui.
Merci, Monique. C'est jour du budget à Québec. Certains diront que c'est la journée même du buffet. Alors, vous prenez ce qui fait votre affaire parce que l'offre est généreuse et multiple. Et on a remarqué aussi la stratégie du gouvernement. Avant, c'était hyper secret, un budget. Moi, je me souviens, les premiers budgets que j'ai couverts, là, c'était vraiment, là, il y avait comme un huis clos qui était respecté. Je me souviens d'une fuite qui avait fait l'objet même d'une enquête policière parce que ça avait pas de sens. Et là, non seulement il y a des fuites à tour de bras, mais en plus, les ministres annoncent toutes sortes d'initiatives. Pourquoi on fait ça? Ça permet d'annoncer 3-4 fois la même affaire. Et donc, taper sur le clou avec la bonne nouvelle. Hier, tu as le ministre Fortin qui annonce des mesures pour les enfants, pour les envoyer dans les garderies. Puis ça va être annoncé encore dans le budget cet après-midi. Et depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on voit, les projets annoncés à Montréal, Québec, pour décontaminer des terrains. Peintures qui vont répéter ça dans le budget cet après-midi. Fait que c'est la grande chorale. Et cet après-midi, dans l'émission de Paul, là, ce sera décortiqué. Puis demain matin aussi, parmi nos invités, le ministre des Finances lui-même. On va retrouver Marc pour cette heure de pointe qui n'est pas si pire.